voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
En 2006, Isabelle Peloux, professeure des écoles, fonde une école différente au cœur du centre d'agroécologie des Amanins. Elle y développe une pédagogie fondée sur l'apprentissage actif, sur la coopération entre les élèves, ainsi que sur un enseignement d'éducation à la paix, avec soi et avec les autres. Dans cette deuxième partie de l'émission La Voix du Kaizen, je l'interroge sur les changements qu'elle observe aujourd'hui à l'école. Est-ce que tu vois des changements aujourd'hui dans ce qui se passe à l'école au niveau national ?
Clairement. D'abord, les Français ne le savent pas assez, ça, mais en 2008, il y avait eu la réforme de Darcos, qui enlevait très clairement de l'école tout ce qui était éducatif. Ça, c'est juste un débat passionnant, c'est comment peut-on croire qu'on pourrait instruire, apprendre des choses à des enfants en enlevant la relation qu'on a avec eux. Aujourd'hui, on le sait clairement, tout apprentissage qui est fait sur un ordinateur ne fonctionne pas. En fait, ça ne marche pas, ça ne reste pas. En fait, ce qui marche, et ça, c'est ce qu'on appelle le socioconstructivisme, donc ça, c'est une théorie aujourd'hui qui a été prouvée, qui est validée par les neurosciences. Il n'y a plus besoin, c'est comme s'il fallait prouver encore que la Terre était ronde. C'est bon, aujourd'hui, on le sait. On apprend en construisant son savoir et on le construit dans le lien social. C'est-à-dire, je le construis parce que je vais construire quelque chose avec l'autre. Je le construis parce que je vais le raconter à l'autre. Je vais lui reformuler ma pensée. C'est comme ça que j'intègre mon savoir. Donc, c'est pas sur un écran. J'ai pas cette interaction sur un écran. Alors, les changements qui vont dans le bon sens, les ordinateurs, voilà, quand on croit que de payer des grands écrans dans les écoles, ça va régler les problèmes à l'école, c'est non. Ça ne va pas les régler. Par contre, c'est vachement bien pour voir des super vidéos sur grand écran. Oui, ça, c'est super. Les changements que je vois à l'école, c'est la nouvelle réforme de 2015-2016, donc en maternelle comme en primaire, qui va tout à fait dans le sens de développer des compétences de savoir être avec l'autre, savoir écouter l'autre, savoir donner le meilleur de moi-même, savoir argumenter, diversifier ma pensée. Voilà. Et ça, c'est écrit noir sur blanc en transversalité, c'est de la pluridisciplinarité partout. En gros, si on le lit et qu'on connaît les pédagogies, on lit en transparence tout Montessori, tout Freinet, de Crowley, tous les mouvements, ils sont représentés. C'est ces pédagogies-là aujourd'hui qui sont montrées comme exemples à suivre en France. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Après, dans les autres changements, un changement majeur qui n'a toujours pas lieu, c'est la formation. On manque des profs. Les profs ne sont pas formés. Et ils ont besoin d'une formation continue. Donc ça, c'est vraiment un accélérateur très important à mettre en place. Et les profs, il faut surtout qu'ils soient formés sur tout ce qui concerne la relation. La relation avec l'autre, parce qu'ils sont toujours en relation avec des enfants, on ne les forme jamais à ça. Et ça, c'est juste une catastrophe, parce que c'est l'endroit où c'est le plus fragile. On a affaire à des enfants, ils ne savent pas faire. Et donc, par exemple, quand tu entends des profs qui te disent « Ah, tel enfant, il m'a provoqué, quelle insolence !» Et qu'en fait, si on le regarde en comprenant ce qui se passe dans une interaction... C'est absolument pas de l'insolence pour l'enfant qui est en face. C'est simplement qu'il a senti un adulte qui tenait pas très bien la route. Ça l'a inquiété. Donc, il a poussé la limite plus loin pour voir où ça tenait debout, quoi. Et nous, on prend ça pour de l'insolence. Donc, vraiment, il y a un décodage à faire de ce qui se passe avec l'enfant, qui est pour moi un des fondamentaux de l'école, quoi.
Mais c'est aussi un cheminement personnel, finalement, que de se former. Pas mal d'instituts le font à titre spirituel ou personnel pour réussir à mieux se comprendre soi avant de pouvoir comprendre l'autre.
Et j'espère qu'il n'y a pas besoin d'être instite pour faire ça. J'espère que c'est tout le monde qui fait ça. C'est la vie, ça. Enfin, moi, c'est là, quand je dis au départ qu'on aime apprendre, moi, c'est ça que j'aime dans la vie, c'est d'apprendre. Et du coup, c'est d'être de plus en plus cohérente avec ce que je propose, avec ce que je vis, de m'alléger de tout ce qui ne m'appartient pas, de nettoyer les vieilles casseroles qui m'empêchent d'être libre, et puis de construire ma propre vie, ma propre pensée. Et plus je serai comme ça, plus je pourrai transmettre ça aux enfants dont je m'occupe. Bien sûr. Et après, la bonne nouvelle en éducation, c'est que les enfants changent. Forcément. Puisque la société change, donc ils changent. Moi, ce que j'aime dans ce métier, c'est que c'est jamais les mêmes. Je me souviens, quand j'ai débuté, j'entendais que des instituts qui disaient « Oh là là, les enfants d'aujourd'hui, c'est plus comme avant. » Et je me suis fait une promesse. C'est le jour où je dis ça, je dégage de l'éducation, quoi. Non, vraiment, c'est pas possible. En fait, c'est normal que les enfants d'aujourd'hui soient pas les mêmes qu'hier, puisque c'est pas la même société. Donc ça fait des nouveaux enfants. Et moi, ce que je vois, c'est des enfants hyper demandeurs de sens. C'est-à-dire qu'ils veulent comprendre pourquoi on fait les choses. C'est comme s'ils naissent avec déjà la problématique de ces on est en danger là. En fait, il va falloir faire des choses bien. Du coup, ils sont encore plus exigeants avec les adultes qui les entourent. Et du coup, ils n'aiment pas les adultes qui ne tiennent pas la route, quoi. Ils ont besoin qu'un oui, ça soit un oui. Qu'un non, ça soit un non. Qu'un non, ce ne soit pas un non. Parce que non, ça, c'est derrière la porte ouverte à 153 négociations. Or, les enfants d'aujourd'hui savent négocier, on leur a appris. On parle beaucoup avec eux, on les écoute, donc ils savent négocier. Donc, ce qu'ils veulent, de temps en temps, c'est être rassurés. Quand je te dis un non, c'est un vrai non. Quand je te dis un oui, c'est un vrai oui. Quand je m'engage quelque part, je m'engage pour de vrai. Quand je te dis que je vais te soutenir, je ne te lâche pas en route. Voilà, mes engagements, ils sont clairs et nets. Et ça, l'enfant, ça le met dans une sécurité qui lui permet là de grandir et d'expérimenter.
Donc là, tu t'adresses aux parents en disant ça.
Non, mais clairement. Parce que l'éducation, elle est dans la main des parents et des éducateurs et de la société qui entoure l'enfant. Nous, à Manin, une des choses qu'on a réalisées il n'y a pas très longtemps, c'est toujours en se comparant avec l'extérieur qu'on réalise ce qu'on a à l'intérieur, c'est qu'aux Manin, par exemple, les enfants de l'école, ils ont des parents qui sont coéducateurs avec les enseignants et quand ils vont manger à la cantine, ils ont des salariés qui travaillent aux Manin qui sont d'accord avec le projet de l'école. Et donc, ils sont entourés d'adultes qui sont dans la même cohérence. Mais pour eux, c'est un cadeau, ça. Ça évite de perdre du temps, quoi. On comprend comment ça se passe et c'est hyper plus cohérent. Et du coup, c'est reposant à l'intérieur. Et ça permet de questionner parce que ça ne fait pas du tout des enfants qui ne questionnent pas. C'est même quelquefois casse-pieds. Ils questionnent beaucoup. Mais ils questionnent avec beaucoup de respect. Et en fait, ils nous mettent face à nos incohérences simplement en disant « Est-ce que tu peux m'expliquer là pourquoi on fait ça ?» Et là, d'un coup, de se dire « Zut, tu as raison, ça ne marche pas. » Mais c'est jamais de l'insolence, c'est simplement du questionnement intelligent, quoi. Et donc, être coéducateur avec les parents, pour moi, c'est une des bases de l'éducation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est au temps des alliances. Éduquer un enfant, c'est difficile. Donc, c'est fini de dire, bon, c'est qui éduque le mieux, la famille ou les instituteurs? Bon, bah, et si on disait que tout le monde fait le mieux qu'il peut, hein, et qu'on se serrait un peu les coudes? Parce que d'élever un enfant, c'est quand même chaud, quoi. C'est pas simple. Tout le monde a des moments de découragement, de grands doutes, de se demander si le choix qu'il a fait, c'est le bon ou pas. Si le non qu'il vient de dire, mais ouf, voilà, mon enfant, il insiste. Est-ce que je dois le tenir ou est-ce que c'est juste une position ridicule où je tiens parce que j'ai dit que j'allais tenir et puis je sais plus pourquoi. Voilà, pareil sur la bienveillance, mais jusqu'où je dois être bienveillant là, mais juste, j'en peux plus. Comment je fais pour continuer à être bienveillant tout en étant usé jusqu'au trognon et n'ayant plus dormi pendant 5 nuits? Voilà, et du coup, d'être coéducateur du même enfant, c'est se serrer les coudes. C'est faire alliance pour l'aider à pousser droit. Donc, si on voit que, par exemple, j'ai souvent des témoignages d'adultes qui me disent « Ah, je suis allée voir la maîtresse, il est en maternelle, et la maîtresse m'a convoqué en me disant « Mais écoutez, votre enfant ne parle pas du tout, ça va pas. » Du coup, moi, je lui dis qu'à la maison, il parlait, et la maîtresse, elle ne me croit pas. Alors qu'en fait, si on est en co-éducation, la réaction d'enseignant, ça va être « Ah bon, me voilà très rassuré. Il parle chez vous. » Donc, ça veut dire qu'il se passe quelque chose à l'école qui fait qu'il n'ose pas parler. Donc, du coup, ça change complètement mon point de vue sur cet enfant. J'ai eu peur qu'il ne parle pas du tout, même chez vous. Et du coup, c'est complémentaire. Parce que ce que nous, on rappelle à chaque réunion avec les parents, c'est que nous, les aides à l'école, on va parler de leur enfant au milieu d'un collectif. Alors qu'eux, à la maison, vont nous parler de leur enfant dans un milieu intime et privé. Ce qui fait que la posture de l'enfant est forcément pas la même. Moi, Isabelle, je ne suis pas tout à fait la même quand je suis avec mes enfants ou quand je suis à l'école. C'est toujours Isabelle, bien sûr, mais c'est une partie de moi un peu différente. Et quand je suis prise dans un collectif, c'est encore une autre partie de moi qui va s'exprimer. C'est ça qui fait la richesse de ma personne. C'est que j'ai plusieurs facettes, tout en étant soudée sur le même tronc commun qui est, lui, immuable. Hein. Mais j'ai des variantes. Et là, on va vraiment avoir l'enfant dans un milieu intime à la maison, dans un milieu collectif où il apprend la socialisation à l'école. Et du coup, on va parler du même enfant, mais à des points de vue tellement différents que ce n'est pas la peine de savoir qui a raison. On a tous les deux raison. On regarde juste pas pareil. Et du coup, on va pouvoir s'entraider, parce que quelquefois, être objectif avec son enfant... Enfin, moi, j'ai eu 3 enfants... Il n'y a pas pire que de parler de son enfant. Parce que quand je parlais de mes enfants, forcément, j'étais emmenée avec dans la réponse. C'est-à-dire que immédiatement mon projet de parent était mis en doute. Et si on me disait que mon enfant allait mal, j'avais du mal à ne pas entendre « c'est Isabelle, c'est de la faute d'Isabelle ». Et du coup, d'avoir un regard extérieur qui m'aide à regarder mon enfant comme il faut, mais c'est très apaisant. Si on se fait confiance et qu'on sait qu'on le fait pour le bien de l'enfant, enfin qu'on essaye de faire au mieux pour qu'il pousse droit, là, on va devenir des alliés. Et là, quelle joie, quoi. Parce que, ouf, tout seul, c'est tellement difficile comme mission.
Oui, c'est ce que tu répètes. Élever un enfant, c'est pas facile. Mais alors, comment on fait quand on est parent et quand on ne sait pas comment s'y prendre? Est-ce que tu aurais des clés à donner, des stages, ou comment faire en tant que parent pour bien faire, en tout cas essayer de faire de son mieux?
Alors, bien sûr, ça apprend. Ça s'apprend. Déjà, il faut qu'on se serre les coudes, donc il faut aller demander conseil aux grands-mères. Une fois, je me rappelle d'une psychologue qui disait que les personnes âgées, en fait, sont intéressantes parce que déjà, elles ont traversé la vie sans y laisser leur peau. Donc, elles ont forcément des choses à nous apprendre. Hein. Donc, déjà, on peut demander conseil à des gens de confiance. On dit, bon, là, comment tu faisais, toi? Est-ce que tu peux me donner une idée? Ou là, est-ce que je peux te le laisser ce soir? Puis, t'essayes de voir, toi, si tu arrives mieux que moi. Puis, tu me dis demain comment t'as fait. Puis, moi, j'essaye de voir ce que je peux en tirer, en apprendre. Donc, déjà, qu'on soit plus alliés entre générations.
Ne pas rester seul,
oui, bien sûr. Après, on peut se retrouver entre parents et avoir l'humilité de reconnaître que c'est difficile. Aux Amana, on a créé une formation à la parentalité parce qu'on est convaincu que c'est un métier qui s'apprend, comme on apprend à être enseignant, comme être dans la relation, ça s'apprend. Et puis, ça s'apprend toute la vie. Moi, je ne crois pas que ça s'arrête. Parce que les enfants, c'est très particulier. Et ça, quand on est parent, on s'en rend compte tous les jours. Ça grandit tout le temps. Donc, en fait, un enfant, on croit toujours avoir trouvé, tiens, là, en ce moment, c'est calme avec lui, c'est super. Ah oui, mais il grandit. Donc, il grandit. Donc, ça change de point de vue. Et hop, il faut de nouveau s'adapter. Donc, c'est vraiment une systémique, l'accompagnement de l'enfant. Ça bouge tout le temps parce que c'est vivant. Et c'est ça qui est génial.
Donc, c'est normal de ne pas savoir, quoi. Il ne faut pas culpabiliser si on ne sait pas comment s'y prendre avec son gamin.
Oui. Et le seul truc dont on est responsable, c'est de ne pas aller ce qu'on a vécu enfant nous déborder, laisser nous déborder. C'est-à-dire qu'on a la responsabilité d'aller regarder ce qu'on a appris enfant. Ça, vraiment, c'est un vrai chemin. C'est-à-dire que quand je vais avoir des enfants, quelquefois, je vais avoir des émotions qui me submergent. Et là, ils y sont pour rien. Ça appartient à mon passé. Donc là, il ne faut pas que je leur colle sur la figure, quoi. Peut-être que moi, on me l'a collé quand j'étais petite, mais ma responsabilité d'adulte, et aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens le savent, ma responsabilité d'adulte, c'est d'aller le poser ailleurs de façon à ne pas parasiter mon enfant avec ça. Et les enfants, là-dessus, c'est juste un guide spirituel extraordinaire, un enfant. Hein, si on a envie de regarder. Si on n'a pas envie de regarder, c'est juste un emmerdeur spirituel. Mais si j'ai envie, ça peut être un super guide. Parce qu'en fait, il va toujours venir me chatouiller là où je ne suis pas très claire avec moi-même. Donc c'est comme une météo, quoi. Il est à côté de moi et il va juste mettre le doigt tout le temps parce que lui, il est en recherche de cohérence. Donc il est en recherche de modèle, donc il est là, bah là, ça marche pas ton truc. Et là, zut, c'est vrai, zut, là, j'ai pas regardé. Et donc, je peux aller en parallèle regarder, mais pourquoi là, ça me va pas. Voilà. Et aujourd'hui, on sait que, enfin pour moi, ça fait partie du développement de l'humain, ça devrait devenir une banalité d'aller revisiter son histoire. Il y a plein de façons de le faire. Et puis ensuite, d'aller se faire du bien, on en est responsable. Et donc, c'est aller aussi bien par l'artistique que par le spirituel, que par le philosophique. Chacun va choisir sa voie. Il y en a des multiples et variées. Mais aujourd'hui, on sait qu'elles existent. Avant, ils ne le savaient pas forcément. Donc aujourd'hui, on n'a plus beaucoup d'excuses pour ne pas aller voir. Et ce qu'il y a de sûr, c'est oser dire « j'ai besoin d'aide ». Nous, à Manon, on a fait un phénomène intéressant. On a monté cette formation à la parentalité. Je ne vois que des parents qui me disent « Oh, génial, extra !» et des gens viennent pas. On a très peu d'inscriptions. Okay. Voilà. Donc, il y a une peur d'aller en parler. Voilà. Donc, les gens, ils viennent parce qu'ils ne se connaissent pas. Mais s'ils se connaissent, ils ont peur. Alors que, au contraire, mais si on osait mettre carte sur table, nous, on essaye de le faire à l'école. Hein. Et si on osait se dire « Mais tu sais, quand ça fait 24 fois que tu lui demandes d'aller se laver les dents et qu'il n'y est toujours pas allé, moi j'en ai marre. Et toi, comment tu fais ?» Et si on osait se le dire, on serait très rassurés. Parce que c'est partout pareil. Ou plus ou moins.
Il y a vraiment cette notion de lien, de collaborativité les uns avec les autres, de compréhension mutuelle, d'échange, de partage.
D'arrêter de se juger.
Mais ça, c'est tout l'inverse de ce qu'on apprend. Enfin, si je m'en réfère à l'école quand moi j'y étais, le jugement est partout, avec ce système d'évaluation, où on est tout le temps évalué, jugé finalement par les grands.
Et oui, et du coup, les adultes... Alors, ça, c'est un des grands sujets de l'éducation nationale, c'est-à-dire que les enseignants de... Moi, je suis pour que l'enfant soit un chercheur, d'accord ? Les enseignants, moi, ce que je défends zéro pédagogie, je défends une posture de chercheur. Il faut que l'enseignant soit un chercheur et qu'il soit droit dans ses baskets. Voilà. Donc il a le côté chercheur. Le côté chercheur, ça veut dire que moi, je me suis inspirée de plein de pédagogies. Toi, si je disais, moi, Isabelle Peloux, dans mon école, je suis très très forte, je fais des choses extraordinaires, et il n'y a que moi qui les ai trouvées, d'abord, na. Bon. Ben, ça, c'est non, c'est pas vrai. En fait, j'ai fait comme tout le monde. Moi, j'ai appris comment par imitation. On fait tout ça. Donc, j'ai imité, tiens, j'ai vu une institut qui faisait un truc super, je lui ai piqué. Après, je suis allée prendre un truc ailleurs, puis un autre, puis un autre. Alors, au début, moi, je n'osais pas le dire, ça. Je dis, mais tout le monde va voir que je ne suis qu'une usurpatrice. J'ai fait que m'inspirer à droite, à gauche, et c'est pas bien. Et puis, jusqu'au jour, je me suis dit, mais en fait, c'est ça, apprendre. C'est juste, j'ai fait le chemin normal que tout humain fait. J'ai appris en observant les autres et en rajoutant ma propre petite touche personnelle parce que je suis moi. Et du coup, ce que nous, on défend aux Amanins, c'est d'être des chercheurs en pédagogie. Et donc, on n'a pas inscrit un seul modèle de pédagogie parce qu'en fait, on cherche tout le temps et que suivant les enfants qu'on rencontre et comme les enfants bougent chaque année, ben, quelquefois, on change. Donc, pour tel enfant, tel truc, ça marche super bien. Et pour tel autre, c'est le bide total. Ben, du coup, on va chercher avec lui de quoi tu aurais besoin, qu'est-ce qui t'aiderait, toi. Et on va l'accompagner sur son chemin qui lui est propre. Voilà. Donc nous, c'est vrai qu'on a, dans l'école des Amanins, l'accueil d'enfants en grande difficulté fait partie du projet. Ça fait notre équilibre. Il nous faut cette biodiversité pour avancer. C'est la richesse de notre école, c'est notre trésor. On en a 7 ou 8 et ils sont là pour ça, quoi, pour nous rappeler que oui, le chemin n'est pas le même pour tout le monde et que du coup, chaque chemin est beau, quoi. Ce qu'il faut, c'est avancer. Oui, le système hiérarchique, par exemple, dans l'éducation nationale, moi, je plains souvent mes collègues quand elles sont obligées de tout le temps demander la permission pour faire quelque chose dans leur classe. Pour moi, je suis pour la liberté de l'enseignant dans sa classe. Quand tu vois les enseignants finlandais qui n'ont pas d'inspecteur au-dessus, pas de... il y a le ministre et les enseignants. Mais par contre, ils ont été formés. Et nous... on nous met sur le terrain sans être vraiment formé. Du coup, on nous surveille. Et si tu veux, le système, il a été fait comme ça. C'est-à-dire que, mettons que je prends n'importe quel chiffre, parce que je n'ai pas du tout les vrais chiffres dans la tête, mais à mon avis, ça ne doit pas être très loin de ça. Mettons qu'il y ait 100 enseignants, et dans ces 100 enseignants, il y en a, allez, 70 qui font hyper bien leur boulot, vraiment. Ils aiment leur boulot, c'est des chercheurs, c'est des bosseurs, ils aiment les enfants, ils le font vraiment comme il faut. Et puis, dans les 30 qui restent, il y en a 10 qui se la coulent douce. Et puis, après, il y en a 10 qui se posent trop de questions, donc ils n'arrivent pas à avancer. Et puis, il nous reste encore 10%. Et ces 10%, ben voilà. Alors eux, ils vont profiter du système. Ils font ce métier, mais en fait, ils n'aiment pas ce métier. Ils n'aiment pas spécialement être avec des enfants. Du coup, ils reproduisent ce qu'ils ont appris avant et ils ne font pas comme il faut. Et tu as l'impression que toute l'institution est braquée sur ces 10%. Et nous met avec des règles et des lois pour pas qu'on devienne comme ces 10%. Ce qui est vraiment la bêtise la plus grosse du monde, parce que du coup, tous ceux qui font bien leur boulot, et quand je dis 70%, je pense que je peux monter presque à 90%. Hein. Moi, je connais que des enseignants comme ça, qui aiment leur boulot. Quoi. Tous ces enseignants-là, on les décourage. Parce que eux, quand ils ont un élan, par exemple, pour aller monter une classe... classe découverte et puis sortir à l'extérieur, donc vraiment prendre des risques et puis donner du temps en plus parce qu'ils sont pas payés pour dormir avec leurs élèves ni pour faire des journées complètes, hein. Donc c'est du temps bénévole, ils sont d'accord pour le faire parce qu'ils sont engagés dans ce métier et qu'ils aiment ça et qu'ils vont faire un dossier de 15 pages pour justifier pourquoi ils vont le faire, quels seront les prérequis avant, qu'est-ce qui va se passer avant, qu'est-ce qui va se passer pendant et qu'est-ce qui va se passer après, et qu'on leur refuse. Mais moi, je pense que je suis enseignant, je fais ça qu'une fois, quoi. Après toute ma scolarité, je râle contre le système qui ne veut pas écouter mes élans de créativité et mes élans d'enthousiasme de chercheur en éducation. Il faut qu'on nous foute la paix. Mais il faut d'abord qu'on nous forme. Ça, c'est vraiment un des points très importants de l'éducation nationale, un des grands manquants.
Et on en est où par rapport à ça, à la formation des profs dans l'éducation nationale?
Alors écoute, ça a été repris en main par les ESP. Hein, donc c'est les écoles supérieures pour être enseignant. Dans l'enseignement, mais avant c'était des UFM, après c'est passé à la fac, maintenant ça revient dans les ESP. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut vraiment qu'on mette en place, c'est un programme de formation très très pointu, où notamment il y a toute cette démarche du savoir-être et du savoir-être avec l'autre. Tout apprentissage de la communication, comment on communique avec l'autre et comment on fait un renvoi, comment on reformule sa pensée, comment on se positionne dans le lien à l'autre, comment on se défend. Comment on gère ses états émotionnels. Donc, il faut des trucs artistiques, il faut des activités sur le corps. Il faut aussi que les enseignants soient dans l'éprouvé, qu'on prenne soin d'eux, qu'ils sachent prendre soin d'eux, qu'ils soient autonomes là-dessus. Et du coup, tous ces apprentissages-là, pour moi, ça devrait être après en formation continue. On devrait avoir une semaine par an. Et là, moi, je suis... Là, tu verras, je vais avoir plein d'enseignants pas contents. Mais moi, je suis pour qu'on fasse ça pendant nos vacances. On devrait avoir pendant... Parce que l'école, on n'a que 144 jours d'école. C'est déjà pas beaucoup. Donc, si en plus on se forme pendant les jours d'école, ça veut dire que les enfants sont plus formés pendant ces jours-là. Donc, nous, on pourrait prendre une semaine, allez, pendant les grandes vacances, de formation obligatoire, où on nous emmènerait sur ces champs du travail, on va dire, presque de développement personnel. Mais au sens très large du terme, hein, pas des choses du tout. Les gens pourraient les choisir. S'il y en a, c'est plus artistique, ils iraient sur de l'artistique. S'il y en a, ils sont plus branchés sur tout ce qui est corporel, ils iraient plus faire de la relaxation, des exercices comme ça. S'il y en a d'autres, c'est plus sur le rapport à la nature, ils iront faire de la randonnée ou je sais pas quoi. Mais qu'on leur dise quel est le lien entre l'activité qu'ils font, l'éprouver qu'ils sont en train d'expérimenter et leur lien avec les enfants après. Là, donc oui, mais il faut nous former, nous former, nous former. Mais après, qu'on nous foute la paix.
La Voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine. Kaizen Magazine à retrouver en kiosque tous les deux mois.